joie d'accueillir et de vous présenter Philippe Dagen. Merci. Philippe Dagen est connu, mais je vais le présenter. Professeur d'histoire de l'art contemporain à Paris 1, critique d'art, il tient la rubrique de critique d'art au Monde, auteur de nombreux ouvrages d'histoire de l'art. Et un ouvrage devrait connaître un regain d'actualité qui concerne l'attitude des artistes et des peintres pendant la Grande Guerre. Donc c'est ton année, la renaissance d'une actualité. Des travaux sur l'histoire de l'art, notamment des ouvrages sur, par exemple, la haine de l'art, des monographies, Aïeo, Gilles Aïeo, Jean Hélion, Pablo Picasso, des romans. Je n'insisterai pas, mais Philippe Dagen a aussi une activité de créateur et donc une intensité d'activité critique qui est remarquable. Peut-être que tu feras comme André Chastel, tu réuniras un certain nombre de tes articles dans des ouvrages bientôt. Et je te remercie d'avoir accepté de venir. Et donc, on va parler de la question de l'évaluation dans le domaine de l'art aujourd'hui.
Bien. Je te remercie de cette invitation, même si elle m'a placé dans une situation délicate, surtout après le cours que je viens d'entendre. Vous ne verrez pas de statistiques, vous ne verrez pas de tableaux, vous ne verrez d'ailleurs pas non plus d'œuvres d'art, ce qui peut vous paraître paradoxal, mais dans le temps, somme toute, relativement bref, dont on peut disposer, étant donné ce qui m'a paru être la grande complexité des questions posées, j'ai essayé essentiellement de mettre en place des choses en me fondant sur trois types, grosso modo, de sources prévisibles, les quelques travaux relativement peu nombreux qui peuvent exister sur la question. Tout aussi prévisibles les travaux des historiens, où en effet j'étais plus familier, et en effet en grande partie quelque chose qui est empirique, qui attendrait peut-être d'être écrit, qui ne l'a pas encore été, et qui se fonde pour beaucoup sur ma propre expérience, non pas tant d'ailleurs de l'expérience du critique, même si j'aurai l'occasion d'en dire deux mots, mais sur une sorte de familiarité ou de vision du monde de l'art actuel, dont il est vrai que mes activités professionnelles me facilitent considérablement la tâche. Bon, je disais que c'est une question complexe, je n'apprendrai rien à personne ici, en disant que la question de l'évaluation de l'œuvre d'art est, et de ses mécanismes et de sa logique ou de ses illogismes est un sujet relativement bien connu. Et pour me mettre à l'abri de toutes sortes de critiques légitimes que vous ne manqueriez pas de faire, j'ai trois paratonnerres, un poète, un philosophe et un économiste. Le poète, c'est Stéphane Mallarmé, écrivant dans une lettre, vouloir assigner son prix réel en argent à une œuvre d'art, c'est l'insulter. Le philosophe, c'est Marx, dans Le Capital, le prix d'objets n'ayant en soi aucune valeur, comme les antiquités, les chefs-d'œuvre de certains artistes, peut être déterminé par des compositions très fortuites, au livre 3 du tome 3. Et l'économiste, c'est Ricardo, écrivant dans Les principes de l'économie politique et de l'impôt que la valeur des œuvres d'art, citation, est entièrement indépendante de la qualité du travail qui a été nécessaire à leur production première et ne dépend que de la fortune, des goûts et du caprice de ceux qui ont envie de posséder de tels objets. Alors, évidemment, la notion de caprice se prête assez mal, semble-t-il, a priori, à l'analyse et à l'historicisation. Je vais me placer sous ces signes-là, très certainement, c'est l'analyse c'est en réplique, très modestement, à Ricardo, que je me situe beaucoup plus. Un autre point de départ, avant de préciser, d'entrer véritablement dans les choses, c'est que la demande portait sur l'évaluation dans l'art actuel. Je m'y suis tenu, je m'y suis d'autant plus volontiers tenu que c'est à la fois le plus difficile et sans doute, malgré tout, ce que je connais le moins mal. Je dois dire néanmoins, à titre de précaution, qu'il est bien évident que les mécanismes de l'évaluation de ce qu'on en appellerait l'art ancien et l'art moderne. Si vous voulez, grosso modo, jusqu'à Matisse et au surréalisme inclus, et incluant l'archéologie, les arts anciens, etc., relèvent d'analyses qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles que je vais évoquer à propos de l'art actuel, même si, naturellement, on peut observer des comparaisons possibles, des parallèles qui peuvent être parfois entrepris. Une partie de ce que je vais vous dire me semble relativement très spécifique à la question de l'art actuel, dans la mesure où, par exemple, mais ce ne serait que l'un des arguments à évoquer, dans le champ des arts anciens et modernes, une notion, même si elle est éventuellement conflictuelle et à définition variable, comme celle de patrimoine, intervient à plein, y compris dans les processus de repatrimonialisation que l'on observe aujourd'hui de la part de pays qui, jusqu'en 1989 par exemple, ou pour des raisons d'économie émergente un petit peu plus tard, n'avaient pas été en mesure de procéder à cette repatrimonialisation. Ce sont des procédures spécifiques qui appelleraient d'autres types d'analyses et d'autres données que celles sur lesquelles je vais me fonder, qui donc, encore une fois, concerne, mettons, les artistes depuis le début des années 1960, à peu près. Et donc, me lançant à l'invitation de mon hôte dans cette tentative dont je dois dire, par ailleurs, qu'elle elle est à la fois, semble-t-il, elle m'était destinée très, très clairement, mais que, étant principalement historien de l'art, et non pas sociologue, ni historien de l'économie, je partais avec de très forts handicaps, j'ai donc essayé de partir, pour ainsi dire, de ma propre expérience. Et donc, il y aura un caractère, certes non narratif, rassurez-vous, vous n'aurez droit à aucune égo-histoire aujourd'hui, mais un caractère quand même assez progressif dans mon propos, en me demandant comment l'évaluation opère, par quel stade, par quelle phase, de l'inconnu, du complet débutant, à l'artiste dont tout le monde connaît le nom ou, plus modestement, dont tout le monde est supposé connaître le nom. Comment passe-t-on de la chambre de bonne, qui n'est d'ailleurs plus qu'une fiction, au sixième étage du centre Pompidou, qui lui n'en est pas une ? Si l'on considère que l'une des nécessités de l'artiste est de faire connaître son travail à partir de rien, c'est la première phase. Les instances qui interviennent en amont de toutes les autres sont celles qui décident de la visibilité initiale de l'œuvre. Dans les premiers temps, et je me fonde là encore sur l'état actuel des questions, ce sont les lieux de formation, les écoles, ceux qui y travaillent et ceux qui en sont proches. La première exposition, qui est souvent une exposition, presque toujours une exposition collective, se décide à ce stade. Elle est décidée par les enseignants, par ceux qui sont proches d'eux, par éventuellement des galeristes, qui peuvent être eux-mêmes pour la plupart jeunes, par des critiques qui font un travail, on va dire un travail de prospection. Les expositions successives permettent de construire progressivement une situation, d'accéder à un statut et à une visibilité mieux établie, permettent naturellement quand l'œuvre bénéficie d'avis encourageants émis par des instances qui jouissent d'une autorité elle-même établie. Une hiérarchie connue de toutes celles et tous ceux qui forment ce milieu de l'art classe ses avis, critiques plus ou moins influents, commissaires indépendants plus ou moins reconnus, galeristes plus ou moins en vogue. Il y a là les éléments de micro-histoire qui tendent à se perdre par la suite. Réflexion entre parenthèses de l'historien d'art. De nombreux facteurs intellectuels, psychiques, sociaux, historiques portent à conséquence et il peut se révéler malaisé d'expliquer rétrospectivement ce qui a paru convaincant ou même bouleversant dans un travail tout juste à ses débuts. Je serais tenté d'appeler cette phase la phase critique, dans la mesure où les jugements qui s'opèrent alors, y compris ceux des galeristes, ne sont que légèrement ou nullement affectés par des considérations économiques. Il en va principalement d'adhésion ou de réticence, d'approbation ou d'incompréhension. Il en va de la perception de la situation artistique à un instant donné et en un lieu donné. Il en va de la distinction entre ce qui ne serait que répétition, rôle de l'enseignement à l'arrière-plan, et ce qui ne l'est déjà plus. Il en va donc naturellement de la question de la nouveauté, du nouveau, de l'inédit, et de la part que l'on sait décisive de cette notion, si vague soit-elle par ailleurs, dans le vocabulaire et l'attitude des critiques. Dans cette phase critique, il ne me semble pas qu'apparaissent de différences majeures entre les villes, les lieux, qui sont les théâtres de ces événements, d'abord très discrets, pour ce que j'en sais, pour ce que j'en vois. New York, Berlin ou Londres fonctionnent de ce point de vue-là de la même manière que Paris, avec des milieux sociaux professionnels relativement concentrés, d'abord à partir des lieux de formation, puis dans ce premier cercle de la reconnaissance. Et il ne me semble pas non plus que le début du XXIe siècle soit profondément différent dans ses fonctionnements de ce que pouvait être globalement le siècle précédent. J'ajouterais seulement, simplement qu'il faudrait sans doute s'interroger aujourd'hui sur un phénomène relativement nouveau qui est la mise en ligne, la publication sur des sites d'œuvres par leurs auteurs eux-mêmes en dehors de toute instance extérieure. Jusqu'à présent, il ne semble pas que ce mode de publication électronique des œuvres ait changé véritablement les mécanismes de la notoriété, mais on est évidemment là à la merci d'une contradiction qui n'est pas encore apparue. Ce dispositif, ce sera le dernier élément de description que je mentionnerai à ce stade, tend, me semble-t-il, dans le vocabulaire des historiens, à se confondre avec ce qu'on appelle le modèle avant-gardiste. Il s'agit de la conjonction de, mettons, trois ou quatre facteurs, l'irruption de formes nouvelles, et là, naturellement, on reviendrait à l'histoire de l'art, et je n'en ferai pas, leur première approbation par une instance critique d'abord très minoritaire, leur adoption par un réseau ou un duo, si vous préférez, marchand-collectionneur, qui est tout aussi minoritaire dans un premier temps. Soit, historiquement, le dispositif, je prends là l'exemple du cubisme, Picasso-Braque, forme radicalement neuve, Apollinaire-Salmon, critique qui n'exerce pas une autorité manifeste en 1912 ou en 1913, naturellement au regard de celles dont ils peuvent jouir aujourd'hui, Marchand, peu nombreux, on pense naturellement évidemment à Daniel Andri Kahnweiler, et collectionneurs liés, qui sont le quatrième élément de ce réseau et qui sont, comme vous le savez, dans cette période-là, très exceptionnellement des collectionneurs français, mais principalement des collectionneurs venus des États-Unis, comme la famille de Gertrude Stein et ses frères, ou des collectionneurs russes, Sergei Shtoukine, ou des collectionneurs allemands comme Osterhaus. L'avant-garde pourrait être définie en ces termes, et l'évaluation de type critique, me semble-t-il, trouve dans ce modèle de l'avant-garde le mécanisme dans lequel elle s'exprime de la manière la plus satisfaisante, la plus complète. Mais cette phase critique, et les exemples que je viens de prendre, de Picasso ou de Braque, en seraient eux-mêmes très révélateurs, est évidemment une phase, si elle est décisive, par ailleurs, relativement bref. Et à cette phase que j'ai donc appelée critique, qui était le premier point de cette espèce de récit typologique que j'essaie d'esquisser, succède, et succède est un mot un peu faible, une phase beaucoup plus longue d'élargissement et d'une évaluation que j'ai hésité à nommer tantôt publique, tantôt consensuelle. Consensuel avec son côté pervers est en fait un adjectif qui me convient mieux. Je veux dire par là que le nom de l'artiste devient naturellement de plus en plus public. De la critique spécialisée, les revues par exemple, les supports dits généralistes prennent le relais. Magazines, radio, télévision, quand elles se préoccupent d'art, site internet, à large spectre d'intérêt et de diffusion. Simultanément, il est très fréquent que des galeries à la puissance et à la notoriété supérieure aux galeries qui ont permis les premières expositions captent l'œuvre et l'artiste. La distinction se fait ici principalement sur le critère, enfin, du moins aujourd'hui, de l'internationalisation, c'est-à-dire de la capacité de la galerie à intervenir non seulement dans là ou les villes où elle est implantée, mais également sur les deux théâtres de l'internationalisation de l'art actuel, que sont d'une part les manifestations périodiques du type biennale, de Venise, de Lyon, d'Istanbul, de Marrakech. Bon, il y en a près de, je crois, il y en a plus de 200 à l'heure actuelle, donc les biennales d'une part, qui sont a priori des manifestations, si l'on peut dire, à caractère non lucratif, ce qui mériterait d'être vérifié dans bien des cas, et d'autre part, les foires, naturellement, qui sont, elles, des foires annuelles, et dont la première, la foire de Cologne, a été créée dans les années 1970, et dont vous savez, j'imagine, qu'aujourd'hui, la principale est la foire de Bâle, qui se tient dans la ville susnommée au mois de juin, laquelle foire de Bâle a désormais deux répondants, qui sont d'ailleurs associés dans une structure capitaliste et juridique unique, la foire de Miami, qu'on appelle quelquefois, mais c'est un peu bizarre évidemment, Miami Bâle, qui a maintenant une dizaine d'années d'ancienneté et qui fonctionne essentiellement à destination des continents américains. Je dis des parce que la présence sud-américaine y est de plus en plus forte, et la foire de Hong Kong, qui est devenue aujourd'hui également, qui a rejoint ce dispositif et qui agit dans le monde de l'Asie, de l'Extrême-Orient et évidemment de la Chine. Donc, le stade de la reconnaissance consensuelle pour un artiste, c'est très prosaïquement, je parle de choses très, très prosaïques, là encore, je pourrais redire ce qui était dit à l'instant, on baptise et on formule de manière assez théorique des faits qui sont souvent des faits d'une extrême, j'allais dire, d'une extrême crudité. C'est le moment où d'une galerie, d'un jeune galeriste débutant, un artiste passe à la galerie d'un ticone du marché de l'art, c'est-à-dire, pour prendre le plus célèbre d'entre eux, Larry Gagosian, à l'heure actuelle, et ses 12 galeries réparties sur l'ensemble de la planète, ce qui se traduit généralement, enfin, même pas généralement, naturellement, par une multiplication de la valeur financière de l'œuvre. Multiplication qui peut être étonnamment substantielle. Donc, il y a la reconnaissance par la grande presse, si l'on veut. Le passage de la galerie débutante à un réseau commercial qui permet d'assurer la visibilité internationale de l'œuvre dans ces types de lieux où l'ensemble du monde de l'art, critique compris d'ailleurs, se retrouve, les foires et les biennales. Et puisque nous sommes en France, mais je ne dirais pas la même chose si je faisais cette conférence aux États-Unis, par exemple, puisque nous sommes en France, je mentionne ici le rôle des institutions publiques, c'est-à-dire le rôle des musées, sachant que la spécificité, enfin l'une des spécificités de la France, étant que le pouvoir muséal y est infiniment plus accentué qu'il ne l'est dans un certain nombre d'autres pays. Ceci étant, ce qui tendrait en un sens à nuancer l'affirmation initiale. J'observe également qu'il y a désormais une sorte de jeu, si vous voulez, à double gain entre ces institutions muséales, et pour le coup ce n'est pas vrai qu'en France, et les artistes à partir du moment où ils sont au premier plan du marché. Je veux dire par là que pour un artiste, mettons Jeff Koons, mettons Damien Hirst, pour citer quelques noms tout de même, bénéficier d'une monographie ou d'une rétrospective. Monographie, c'est quand on a 40 ans, rétrospective, c'est quand on en a 60. Alors évidemment, au-delà, ça devient plus inquiétant. Donc, pour ces artistes, bénéficier d'une monographie ou d'une rétrospective au MoMA à New York, à la Tate Modern à Londres, au Städel à Francfort, au Centre Pompidou à Paris. La liste n'est pas exhaustive, mais enfin, je me focalise là sur quelques lieux emblématiques. C'est une reconnaissance. Le musée étant supposé écrire l'histoire de l'art, l'artiste qui bénéficie de cette invitation par le musée s'en trouve évidemment renforcé. Mais, réciproquement, le musée s'en trouve renforcé. Car il est important pour lui, dans l'état actuel du monde, de manifester sa présence dans le champ de l'art actuel en procédant aux bonnes invitations. C'est-à-dire que l'artiste est légitimé par le musée qui est légitimé par l'artiste au regard de cette opinion consensuelle du monde de l'art. Si le centre Georges Pompidou, on pourrait ensuite discuter des programmations, va réaliser, cette année d'ailleurs, une exposition de Jeff Koons, c'est sans doute parce qu'il peut y avoir une curiosité à montrer son œuvre, encore qu'elle l'ait été assez largement, ne serait-ce qu'à Versailles, il n'y a pas si longtemps, mais c'est aussi parce que l'on est dans ce rapport à double gagnant, l'artiste et l'institution. Maintenant, quelques remarques concernant les différentes instances d'évaluation que je viens d'évoquer. La réception médiatique au niveau généraliste. On doit évidemment constater que, à ce stade, dans la mesure où il s'agit d'une opération sociale collective, l'instance critique, au sens que le terme avait dans la description de la première phase, perd tout ou partie de son influence. De ce point de vue-là, mon cher, être critique fût-ce au monde, ce n'est pas exercer une autorité particulière sur ce, sans mauvais jeu de mots, monde-là. On l'observe dans de nombreuses chroniques de presse, vous m'excuserez de ne pas citer d'exemples, dans lesquelles on préfère rapporter les achats réalisés par tel collectionneur ou l'opinion de tel galeriste plutôt que de se prononcer en son nom propre, je veux dire le nom du critique, sur l'intérêt ou la qualité telle qu'il les perçoit, telle qu'il peut les comprendre, d'une œuvre considérée. Il me semble dès lors abusif de conserver le terme « critique » et plus pertinent de définir ses activités médiatiques comme l'orchestration journalistique d'un phénomène qui échappe à ceux qui l'annoncent, annonce qui ressemble le plus souvent à une approbation et donc à une démission de l'instance critique à proprement parler, abandonnant à d'autres groupes sociaux, conservateurs, marchands, collectionneurs, le soin de distinguer ce qui « compte » entre guillemets et de ce qui ne compte pas. J'ajoute que dans cet abandon de la position critique, des facteurs économiques peuvent jouer, le biais d'achat d'espaces publicitaires, par exemple, mais que pour ce que j'en sais, il serait plus naïf que cynique de croire que ce processus de corruption expliquerait la complaisance des médias, alors que la crainte d'être en désaccord avec le plus grand nombre et le respect du marché sont des moteurs beaucoup plus puissants. Pour l'instance du marché, à proprement parler, pour l'instance de la galerie. Il est bien évident qu'elle ne fonctionne que dans un dialogue entre le galeriste et le collectionneur. Dialogue dont l'artiste, d'ailleurs, est généralement assez exclu, selon des règles qui sont pour la plupart assez prévisibles, la plus évidente étant que la loi de l'offre et de la demande demeure un mode d'analyse pertinent, particulièrement quand l'argument de la rareté peut être avancé et j'imagine qu'il n'aura échappé à chacun, aucun d'entre vous, que être un artiste à faible production est à cet égard plutôt une position plus solide qu'être un artiste à forte productivité, dans la mesure où une faible production est évidemment un facteur de renchérissement et de valorisation, jusqu'à ce processus qui n'est évidemment que l'apanage des noms les plus reconnus, qui est celui de la liste d'attente. C'est-à-dire que quand vous êtes un artiste véritablement très reconnu, mais attendez, ce n'est absolument pas péjoratif. Moi, là, je fais juste une description de ce que je vois, hein, c'est rien de plus. Balthus avait une liste d'attente. Ça ne signifie pas que je considère que Balthus était un artiste sans intérêt. Il était simplement dans un processus de survalorisation de l'œuvre lié à un phénomène de rareté. Quand un artiste comme Maurizio Cattelan annonce qu'il prend sa retraite, on peut considérer ce qu'il a fait après sa rétrospective au Guggenheim de New York l'an dernier, on peut considérer que c'est une figure de style, un geste néo-dada, on peut considérer aussi qu'à ce sens, il fait passer, pardon de ce cynisme, mais un message au marché qui consiste à dire « je ne produirai plus rien ». Tout le monde ici comprend parfaitement quel est le processus de renchérissement qui s'opère automatiquement à partir de cette annonce d'un retrait. Donc la loi de l'offre et de la demande demeure, me semble-t-il, un élément d'interprétation encore très, très acceptable. Mais ce que j'observe surtout, c'est que depuis une trentaine d'années à peu près, on assiste à ce que j'ai appelé une rationalisation paradoxale de l'évaluation artistique. Je veux dire par rationalisation qu'il est désormais possible à tout acquéreur potentiel, de même que pour les vendeurs et pour les intermédiaires du type conseiller artistique, de se référer à des palmarès, à des classements dont le plus ancien et l'un des plus écoutés encore aujourd'hui, qui a été créé en 1970, est le Kunstkompass, la boussole de l'art, publié chaque année par la revue allemande Capital. Par ailleurs, évidemment, comme vous le savez, la création d'Internet a produit la multiplication de sites de comparaison qui établissent des hiérarchies par la valeur financière. Alors que le Kunstkompass ne mesure pas en termes de valeur monétaire, mais en termes de visibilité. Le Kunstkompass compile les expositions réalisées par un artiste sur une année X, attribue à chaque lieu d'exposition, suivant la nature de l'exposition, la nature du lieu et sa durée, un certain nombre de points, et fait ensuite son addition pour établir la liste des 10 artistes, des 25 et des 100. En fait, il publie une liste qui va jusqu'au numéro 100, des 100 artistes les plus exposés dans l'année, mettons le prochain que l'on verra apparaître à la fin de cette année, ça paraît en fin octobre, début novembre, le Kunstkompass, ce sera le Kunstkompass 2013. Alors qu'un site comme ArtPrice, par exemple, lui, compile des résultats de vente et classe, ce qui est, me semble-t-il, mathématiquement relativement simple, les cotes les plus élevées qui ont été obtenues dans des ventes publiques. Je vais revenir très longuement, enfin aussi longuement que je le pourrais, sur la question de la vente publique très rapidement. Grâce à ces instruments, il est désormais aisé donc de savoir quel est le numéro 1, etc. Ces classements d'artistes sont corrélés par ailleurs à des, ce que j'appelais, je ne sais pas si le terme est sociologiquement propre, des hiérarchies annexes. Ce sont, par exemple, les 100 personnes les plus influentes du monde de l'art. Vous serez assez peu surpris de savoir que François Pinault est généralement relativement assez bien classé dans cette hiérarchie. Puisque ces palmarès socio-professionnels, indissociables des classements artistiques stricto sensu, mesurent l'engagement, la qualité de prédiction d'un, ce qu'on pourrait appeler un leader d'opinion, que l'on n'appelle pas dans le monde de l'art un leader d'opinion, qu'on appelle un collectionneur prescripteur. François Pinault est un collectionneur prescripteur. Des Américains comme Steve Cohen, comme Eli Broad de Broad & Kaufman, les immobiliers, que je vais citer un petit peu plus tard, sont des collectionneurs prescripteurs. Dakis Ioannou, qui est un entrepreneur de travaux publics grec, qui a créé la fondation DSD, est un prescripteur. Un certain nombre de collectionneurs allemands ont également... C'est-à-dire que leur présence sur le marché, le fait que l'on sache qu'ils s'intéressent à tel artiste, est en lui-même un facteur de décision. Je voulais prendre un exemple, c'est peut-être le seul que je prendrais, parce qu'il m'est arrivé, ça fait partie des innombrables communiqués de presse et autres, qu'un critique est supposé recevoir. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas évidemment vous dire de quel artiste ni de quelle galerie il s'agit, pardon, mais dans l'argumentaire que l'on m'envoie pour me convaincre de venir voir cette exposition, on me dit les œuvres de X, peu importe qui est X, ont déjà été acquises par la collection Société Générale, le Fonds National d'Art Contemporain, plusieurs collectionneurs privés, et il est recommandé par AXA Art, AXA Art, qui est le fonds de placement artistique de l'assureur. Bon, voilà comment ça fonctionne. Alors, après, on est parfaitement libre d'en tenir aucun compte. Mais ici, où je ne fais que de la description, je vous montre comment ça fonctionne. Il est bien évident que ces processus d'estimation, d'évaluation absolument collectif est dans la pratique doublé du fait que ces collectionneurs prescripteurs que je viens d'évoquer pour quelques-uns d'entre eux ne décident que très rarement seuls et sont tous entourés de conseillers, souvent d'ailleurs recrutés parmi le personnel des musées, qui a quitté les musées et qui est passé au secteur privé, et qui sont des connaisseurs en tendance et qui s'efforcent d'évaluer les processus, la juste décision à un moment donné. Bon, ceci étant, cette rationalisation, cette professionnalisation de l'évaluation artistique me paraît, j'ai dit paradoxal, dans la mesure où si élaborées soient les informations et leur traitement. Elles se fondent sur des évaluations et rien d'autre. Par rapport aux tableaux, aux chiffres que tu as cités tout à l'heure, on est, me semble-t-il, sur de l'objectif. Quand on peut étudier les évolutions ou les répartitions statistiques que tu as évoluées. Le Kunstkompass, si... remarquable soit-il par ailleurs, calcule ce qui a été le plus vu, ce qui revient à relever les tendances majoritaires d'une évaluation artistique consensuelle à un moment donné. Art Price sait ce qui s'est le mieux vendu, ce qui revient à relever une tendance sous une autre forme d'expression en centaines de milliers de dollars ou d'euros et non plus en centaines de milliers de visiteurs. À l'origine de ces visites et de ces achats se trouvent d'autres évaluations, et j'ai envie de dire rien de plus. Donc, si l'on se remémore les avertissements de Marx ou de Ricardo que je citais tout à l'heure, on est sur de l'évaluation compilant de l'évaluation. Ce qui ne me semble pas être un schéma d'une solidité intellectuelle inébranlable. En somme, il s'agit de minimiser un risque, rien de plus. Et cette tentative de minimiser un risque, d'une part, elle n'a rien de neuf, d'autre part, elle est constitutive de l'histoire du goût, dont je ne parle pas, et de l'histoire de l'art, dans la mesure où on sait tous à quel point cette évaluation consensuelle d'artistes peut être soumise au danger d'une sorte de réversibilité. Je citerai deux exemples qui sont bien connus. Si on avait publié un Kunstkompass vers 1880, il ne fait aucun doute que Cabanel ou Bouguereau auraient été classés non seulement dans les 10 premiers, mais probablement les premiers. C'est-à-dire ce que l'on appelle aujourd'hui la peinture pompier. Il y avait une convergence d'opinions en leur faveur, dont on sait comment elle s'est retournée, au point qu'aujourd'hui, on s'intéresse plus à ces artistes en raison de cette péripétie de leur fortune critique qu'en fonction de leur œuvre elle-même. Il est à noter, cela vous plaira peut-être moins de l'entendre, que le même processus s'est observé à propos de des différentes formes de peintures abstraites qui ont vu le jour en Europe après 1945, qui ont bénéficié d'un consensus d'évaluation très remarquable jusqu'au début des années 60, avec des renchérissements considérables, un accord général, des achats dans tous les musées, des collectionneurs prescripteurs, y compris nord-américains de l'époque, alors même qu'il s'agit d'artistes européens pour certains d'entre eux, et que ce processus a été suivi par un effondrement dont vous pouvez observer la trace. Si vous avez la curiosité d'aller voir l'exposition Poliakov au Musée moderne de la ville de Paris à l'heure actuelle, et si vous lisez le catalogue, vous voyez en creux cette histoire d'un artiste sur l'œuvre duquel ensuite chacun peut avoir son sentiment, qui a été porté véritablement au pinacle par une période et qui a vécu assez longtemps pour voir l'effondrement de son évaluation. On pourrait en conclure que la méfiance est la règle. À l'inverse, je ne voudrais pas que vous croyiez que je voudrais vous introduire une sorte de dialectique négative qui conclurait que l'unanimité, à un moment donné, annonce un futur de désaffection et de dévaluation. L'évaluation de la postérité ne se déduit pas mécaniquement par l'inversion de l'évaluation, d'une évaluation consensuelle. Les contre-exemples sont évidemment trop nombreux pour le permettre. Picasso, Beckmann, Rauschenberg, par exemple, ont été identifiés très vite et de façon bientôt générale comme des artistes majeurs, et le jugement ne s'est, en ce qui les concerne, à aucun moment renversé, quand même il devenait encombrant pour les artistes des générations suivantes. On observe donc que le processus d'évaluation, en dépit des efforts d'information et de rationalisation des décisions, se révèle pour le moins susceptible de modifications substantielles sur des durées parfois brèves. Bien évidemment, je pourrais faire la même remarque à propos de l'art ancien, je ne la ferai pas. Le troisième et dernier point que je vais évoquer rapidement et qui néanmoins est une chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai parlé des musées, j'ai parlé des galeries, j'ai parlé de la presse, etc. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'évaluation de l'art actuel a en réalité un théâtre, et j'emploie à juste titre, je crois, ce mot, qui l'emporte sur tous ceux que je viens de citer. S'il y a une phase critique de l'évaluation, s'il y a une phase consensuelle de l'évaluation, il y a une phase, là encore j'ai hésité dans l'adjectif à employer, j'ai d'abord écrit hystérique, puis je me suis dit non, on ne fait pas de psychologie. J'ai pensé à symbolique, j'ai pensé à stratégique, et finalement je vous propose l'évaluation stratégique symbolique de l'œuvre d'art. De quoi s'agit-il ? Il s'agit des ventes aux enchères. Il y a une vingtaine d'années, les deux grandes maisons de vente aux enchères qui ont été fondées à la fin du XVIIIe siècle pour l'une, au début du XIXe pour l'autre, je rappelle Christie's and Sotheby's, qui sont donc des maisons très anciennes, et le processus de l'enchère est encore beaucoup plus ancien qu'elles, mais jusqu'aux années 80 à peu près, les maisons de vente aux enchères ne se saisissaient pas de l'art actuel. Elles vendaient grosso modo jusqu'à l'art moderne, mais pas au-delà. Depuis, elles ont largement, et une maison d'une moindre ampleur financière comme Phillips fait la même chose, très très largement investi le segment de l'art actuel. Et c'est là quelque chose qui, dans le monde d'aujourd'hui, a une importance considérable. En sachant par exemple, c'est un point que j'essaierai de retrouver à la fin, qu'aujourd'hui, un Jeff Koons, un Bacon, vaut aux enchères 20, 30, 40 fois éventuellement, ce que vaut un Cranach, un Rubens ou un Mantegna. C'est l'échelle des valeurs est de cet ordre-là. Vous voyez, un Jeff Koons, ça peut valoir facilement 80 millions de dollars aux enchères. Un Rubens ne vaudra jamais 80 millions de dollars aux enchères. Je ne fais pas de hiérarchie, je fais juste une observation. Alors, ces ventes aux enchères, comment elles opèrent ? Elles n'opèrent pas par la négociation, elles opèrent par la compétition au plus offrant, une compétition qui, de surcroît, est partiellement ou totalement, de plus en plus, publique. Là, il faut donner des noms. C'est Roman Abramovich acquérant un triptyque de Bacon pour une 60aine de millions de dollars. C'est Ellie Broad acquérant non pas un, mais souvent plusieurs Kunz, donc mettons dans des fourchettes entre 50, 80, ça peut aller jusqu'à 100. C'est très récemment, chez Hong Kong Sotheby's, au mois d'octobre, François Pinault, achetant la scène du peintre chinois Zheng Fanji, que vous voyez exposée à l'heure actuelle à Paris, pour, si je me souviens bien, 130 millions de dollars de Hong Kong. Alors, je ne vous ferai pas l'évaluation, mais enfin, 130 millions de dollars de Hong Kong, ça fait quand même beaucoup d'argent. Les montants sont des records. L'œuvre mise aux enchères est disputée. Alors, pourquoi ? Je fais l'hypothèse qu'elle est disputée en raison de la charge symbolique qu'il est possible d'inscrire en elle, et que cette charge symbolique peut être indépendante de l'œuvre elle-même. Je m'explique. Quand Roman Abramovitch achète un Bacon à Londres, un triptyque de Bacon, c'est un oligarque russe installé à Londres qui rend hommage au plus remarquable des artistes britanniques de la seconde moitié du XXe siècle. Il fait de même d'ailleurs en payant quelques années auparavant très cher un tableau de Lucian Freud, qui est aussi un peintre britannique. Il s'inscrit ainsi dans une histoire nationale de l'art britannique, on ne dira pas anglais, à cause de Bacon irlandais, ni évidemment de Freud, et il cherche en somme à s'inscrire dans cette histoire de son pays d'adoption, en endossant le rôle flatteur du mécène princier, rôle aussi connu dans l'histoire russe que dans l'histoire britannique. En un sens, il paie un tribut à son pays d'adoption, en un autre, il manifeste la nouvelle puissance de son pays natal. L'objet même, l'œuvre, il s'agissait d'un triptyque particulièrement expressionniste et violent de Bacon, est évidemment une occasion, un emblème. L'œuvre, en ce qu'elle est, dans sa matérialité et dans sa charge psychique et intellectuelle, n'est plus en cause. Quand Ellie Broad, milliardaire américain, enchérit sur un Jeff Koons, artiste qui célèbre la culture et la puissance des États-Unis d'Amérique, artiste dont le passage par Wall Street, qu'il évoque volontiers, a été un élément de formation important. Il s'agit, en somme, d'une célébration du capitalisme par lui-même et d'un capitalisme nord-américain dans lequel les sculptures de Jeff Koons, polies, lissées, parfaites, monumentales de surcroît, empruntent un certain nombre de qualités techniques à l'industrie d'armement ou à la recherche scientifique. Le capitalisme fait le capitalisme. Quand François Pinault se prononce ostensiblement en faveur d'un peintre chinois. J'ai dit, c'est François Pinault qui a acheté Zheng Fanji. C'est pas une rumeur, c'est une information. Il prend position par rapport à la puissance économique et donc politique en cours d'expansion de la Chine à travers ses artistes. C'est lui-même qui le dit. Et, accessoirement, renforce considérablement sa présence et son audience sur le marché de l'art chinois, où Christie's, dont il est le principal actionnaire, vient de pénétrer et de réaliser ses premières ventes au mois de novembre dernier. Que The Last Supper, autrement dit en français, la scène de Zheng Fanji, soit par ailleurs une œuvre qui fait explicitement référence, d'une part, bien sûr, à Léonard de Vinci, d'autre part à certains éléments de l'histoire de la Chine communiste, est en la circonstance plutôt une sorte de considération dérivée par rapport à l'enjeu que j'appelais tout à l'heure stratégique, symbolique de l'œuvre. En somme, l'évaluation ici de l'œuvre s'accomplit dans une perspective qui est celle de la communication éventuellement politique et des effets qui en sont attendus. Un achat public, médiatisé, spectaculaire, est évidemment bien préférable à une acquisition dans une foire, acquisition bien moins visible, et le caractère exorbitant de la dernière enchère est un gage d'engagement qui va bien au-delà de l'œuvre et de l'artiste. L'évaluation artistique n'a plus dès lors qu'une relation très incertaine, très distante, avec l'œuvre d'art. Naturellement, ceci ne concerne qu'un nombre relativement restreint d'artistes dont j'ai donné quelques noms au fur et à mesure de mes exemples. Ceci me semble-t-il, et c'est la première de mes remarques conclusives, explique en grande partie la survalorisation de l'art vivant par rapport à l'art ancien. Ce dernier est, le plus souvent, moins aisément susceptible de porter des charges symboliques et stratégiques qui n'ont de sens que par rapport au présent. À l'inverse, cet art ancien est trop souvent, entre guillemets, encombré de significations religieuses ou politiques inopportunes ou devenu incompréhensible à l'immense majorité des intervenants et du public. L'art ancien est un véhicule incertain et mal commode pour des messages à destination des contemporains et souvent, ou majoritairement, des compatriotes. Donc, en ce sens, il y a une logique qui fait que surpayer, entre guillemets, un Kunz, quand on est Eli Broad ou Steve Cohen, cela a un sens à l'intérieur des États-Unis. Surpayer un Tintoret, je vous dis Tintoret, c'est vraiment le premier nom qui me vient à l'esprit, ça ne fonctionne pas. Ça n'a en fait aucune attache symbolique par rapport au public qui est visé. Première remarque. Deuxième remarque. L'art contemporain, et là je me hasarde encore beaucoup plus loin de mes terres habituelles, n'est pas, à mon sens, le seul secteur où ces achats symboliques stratégiques sont opérés au terme de compétitions et d'enchères. Un autre secteur, fonctionnant sur des ressorts identiques d'ultra-médiatisation, est le monde sportif, plus particulièrement celui du football. C'est là que je suis vraiment très loin, surtout méridional. Autre spectacle mondial. Roman Abramovich est aussi le propriétaire du Chelsea Football Club. Moins brillamment, peut-être parce qu'il doute de l'efficacité de l'opération, François Pinault finance le football club de Rennes. Quant à la famille régnante du Qatar, qu'il faut bien finir par citer à un moment ou à un autre, elle investit simultanément dans l'art actuel et dans le football. Damien Hirst et le PSG. Les musées élevés par paye ou nouvelle et les stades de la future Coupe du monde de football. Certes, des erreurs de calibrage, c'est le moins que l'on puisse dire, et d'exécution de ces opérations ont rendu le message d'une efficacité douteuse. Il ne fait cependant, à mon sens, aucun doute que ces opérations s'inscrivent dans une visée stratégique géopolitique. Dernière remarque, pour retomber quand même sur Mallarmé, car je ne pouvais pas ne pas à un moment revenir à Mallarmé. Tout ce que j'ai dit tend à prouver que les interrogations proprement artistiques ou intellectuelles ne sont plus que des données secondaires ou nulles dans un processus d'évaluation et de décision qui ne leur doit plus rien. Si ce n'est que par un ultime renversement, il peut arriver que l'œuvre se rebelle contre les usages qu'il en est fait. Oh, madame, peut-être pourriez-vous répondre ailleurs. En acquérant une sculpture d'Adèle Abdessemed, artiste très en vogue, ostensiblement défendue par des institutions, exposition au Centre Pompidou, un collectionneur prescripteur, François Pinault, et l'une des galeries new-yorkaises les plus influentes du moment, David Zwirner, la Qatar Museum Authority pensait assurément faire un coup d'éclat. Elle pouvait en être d'autant plus assurée que la sculpture, vue et photographié par des dizaines de milliers de passants, donc vous, très vraisemblablement, devant le Centre Pompidou, quand l'exposition Abdessemed s'y est tenue à l'automne 2012, représente cette sculpture un moment légendaire de l'histoire du football. Le coup de boule de Zinedine Zidane sur le torse de Marco Materazzi, il faut que je vérifie, lors de la finale de la Coupe du Monde. Il y avait donc une conjonction apparemment parfaite des potentiels symboliques. L'art actuel, les collectionneurs prescripteurs, la rumeur médiatique, le football. Est alors intervenu un caprice, de ces caprices que citait Ricardo. C'est un caprice, si l'on peut dire, religieux, l'interdit frappant la représentation humaine aux yeux des musulmans les plus rigoureux, particulièrement quand cette représentation s'exhibe dans l'espace public, ce qui était le cas, puisque l'œuvre d'Abdessemed était placée sur la corniche qui borde le front de mer. à Doha. Le caprice, la contradiction, a été assez vive pour qu'il soit décidé précipitamment d'arracher le bronze à son socle, en l'endommageant d'ailleurs, et de l'entreposer loin des regards. On voit par cet exemple combien le système actuel d'évaluation de l'art actuel, en dépit de ses efforts de rationalisation et de sa logique stratégique, peut être déstabilisé par l'irruption d'un facteur qui n'avait pas été considéré, qui n'est pas un facteur artistique en la circonstance, mais un facteur religieux. Comme quoi, peut-être, en effet, l'évaluation d'une œuvre d'art par l'argent demeure une insulte et qu'il peut arriver que l'œuvre d'art se rebelle contre cette insulte. Je vous remercie.